Vous écoutez
RMC. RMC, 9h-10h.
Votre vie numérique.
François Sorel.
Raphaël Grabli.
Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous. Vous venez peut-être d'arriver sur RMC. Eh bien, ce week-end des experts se poursuit. Après le jardin, après la maison, après la forme, la santé, c'est la vie numérique. Et c'est avec Raphaël Grabli qui m'accompagne. Bonjour Raphaël.
Salut François.
Raphaël, vous le savez, chaque samedi 9h-10h sur RMC. Raphaël, tout à l'heure, on va découvrir sans aucun doute l'un des vélos les plus attendus de la rentrée. C'est un vélo 100% français et hyper high-tech.
Oui, alors 100% français, même si on dit que c'est un peu le Tesla du vélo. C'est-à-dire que c'est un vélo. Alors c'est un vélo électrique.
Certains disent que c'est l'iPhone du vélo.
Ou l'iPhone du vélo, voilà. Donc c'est un vélo électrique, mais c'est un vélo qui est censé être intelligent. Voilà, c'est-à-dire qui va avoir un grand écran, quasiment comme une tablette, qui va proposer toutes sortes de services, des applications, des outils de navigation notamment, et qui va aussi s'adapter un petit peu à l'utilisateur. Donc ça s'appelle Angel Bike. Alors Angel, c'est A-N-G-E-2-L, qui était disponible en précommande. Alors je crois que les précommandes ont un petit peu explosé. Il y a eu beaucoup, beaucoup de commandes. Et le fondateur d'Angel, c'est Max Simoncini, donc on va dire
une star de l'entrepreneuriat
ouais. français et une star du web français aussi.
Voilà. Mythique, c'est lui par exemple. Il a créé énormément de services que vous utilisez
et
peut-être.
Puis les tout premiers services d'hébergement dans la
France. E-France.
Il y avait e-France. Donc avec Multimania, il me semble, c'était un peu les concurrents.
Voilà, t'étais tout petit à l'époque.
Eh bien, je m'en souviens un peu.
J'étais un petit peu plus grand, oui, c'est vrai que. En tout cas, Marc Simoncini, entrepreneur très intéressant, sera avec nous. Il nous parlera donc de son projet et plus que de son projet, puisque ce vélo, ça y est, est disponible. Hein, on peut le précommander, on peut l'acheter. Angel, ce sera tout à l'heure. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment poser vos questions vie numérique à Raphaël Grabli, le 3216. Vous avez toujours l'appli RMC, Direct Studio, magique, hein, sur votre smartphone. Vous nous laissez un message avec votre numéro de téléphone et puis on vous rappelle dans la foulée. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. On commence par vos questions et c'est Jean-Pierre qui nous attend. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Bienvenue sur RMC, Jean-Pierre.
Bonjour François, bonjour Raphaël.
Vous nous appelez d'où ?
Du Morbihan. Ouais, La Roche-Bernard, entre Vannes et Nantes.
Parfait. Et Raphaël Grabli vous écoute.
Donc, moi j'ai un OnePlus 5T et qui marche très bien. Enfin, que la batterie commence un peu
à
pêcher au bout de 3 ans. Et je souhaiterais changer pour un OnePlus 8 Pro.
Ouais.
Ou un modèle équivalent, sachant que j'ai besoin d'une double SIM obligatoirement.
D'accord. Besoin d'une double SIM. Ouais. Écoutez, alors l'avantage c'est que maintenant les doubles SIM, il y en a quand même dans pas mal de modèles, notamment les marques chinoises, elles le font quasiment toutes. Ça dépend après, parfois il y a des petites déclinaisons pour des problèmes de place, on ne l'a pas, mais le OnePlus 8 Pro, il me semble qu'il y a une double SIM.
Je vais regarder, normalement il y en a une, oui.
Alors, si vous avez le OnePlus 5T dont vous êtes content, franchement, vous serez pas dépaysé avec le 8 Pro, parce que en fait, c'est exactement la même interface. Et c'est vrai que je parle souvent des interfaces sur Android qui sont parfois un peu chargées en système, en application préinstallée notamment. Et moi, ce que j'adore, il y a deux marques que j'adore pour ça, c'est OnePlus. Parce qu'il propose une interface extrêmement épurée, très rapide, très réactive en plus.
Avec le logiciel.
C'est le logiciel, voilà. C'est quand même important parce que c'est ce qu'on a en face des yeux au quotidien.
Voilà, tout ce qui nous permet de manipuler facilement le téléphone.
Exactement.
En fait.
Et donc, OnePlus, pour moi, c'est les meilleurs dans le domaine. C'est la meilleure interface Android, la plus épurée, la plus réactive, la plus, fluide, la plus agréable à utiliser. Après, il y a Google aussi, mais Google, ils ont un avantage, c'est qu'ils font Android aussi. Ils développent Android et comme ils ont leur propre gamme de mobiles, les Pixels, chez eux, ça se passe plutôt bien aussi. C'est une interface très, très sobre. Contrairement à d'autres marques où c'est un peu plus chargé, je pense à Xiaomi qui font du super rapport qualité-prix, mais avec des interfaces plus chargées. Je dis ça parce que si vous êtes habitué à ce type d'interface, je vous suggérerais de rester un peu là-dedans. Donc, écoutez, rester chez OnePlus, franchement, moi, ça me paraît être une bonne idée. Hein. Vous hésitiez avec d'autres modèles ?
Bah en fait, si j'écoute ma fille, elle veut que je prenne un iPhone 11 par exemple, mais comme il n'y a pas la double SIM, chez Apple. Il n'y a que le SE, je crois, de mémoire, qui a la double SIM. Mm-hmm. Donc moi, je serais resté là-dessus, ou alors partir sur un Samsung S,
je sais même pas. Oui, il y a les S20, S20 Plus,
le
etc. S20,
par exemple, oui, le S10, tout ça. Donc, mais le double SIM est important pour vous?
Oui, parce que j'ai, en fait, je l'utilise en perso et en pro.
Alors, après, chez Apple, c'est un peu particulier ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils font ce qu'on appelle une eSIM. C'est-à-dire qu'il y a une carte SIM physique et une autre
carte. Le petit plastique.
Voilà, la carte
qu'on
SIM
met dans le téléphone.
Oui, exactement, oui. C'est ce qu'on met avec l'épingle sur le côté. Et puis, il y a un autre emplacement qui est ce qu'on appelle une eSIM. C'est une carte SIM virtuelle. En fait, c'est comme s'il y avait en permanence une autre carte SIM dans le téléphone qu'on peut ensuite agréger ou adapter à chaque opérateur. Donc, on peut souscrire à un opérateur, à une offre, quand on veut, sans avoir à recevoir la carte SIM. Elle est déjà intégrée et elle s'agrège à l'offre des différents opérateurs. Alors, pendant des années, les opérateurs français jouaient pas franchement le jeu.
Je pense qu'ils le font pas. Free, je crois.
Alors, justement, Free, ils vont le faire très bientôt.
Ah, voilà. Ils vont le faire.
Ils vont le faire très bientôt. Je sais parce que ça a été annoncé notamment. C'est Xavier Niel qui l'a annoncé à François.
Ouais, j'ai posé la question à Xavier Niel il y a pas longtemps et il nous a dit que ça allait arriver, là, dans les semaines qui viennent.
Voilà. Donc,
vous savez, de temps en temps, avec Free, quand ils disent des semaines, c'est plutôt des mois.
Beaucoup de semaines.
Mais ça va arriver.
En tout cas, c'est une histoire de semaines, peut-être à la rentrée, je sais pas. Mais en tout cas, ça devrait pas tarder. Donc, la eSIM, ça vaut le coup peut-être de regarder. Mais après, passer chez Apple pour passer chez Apple, je vois pas tellement l'intérêt parce que après
moi je vois pas
si vous êtes content avec OnePlus, alors pour avoir utilisé à la fois le OnePlus 8 Pro, pour avoir un grand écran comme ça, faut comparer avec l'iPhone 11 Pro Max qui est le ultra haut de gamme de chez Apple, qui va coûter 200€ de plus, qui est je trouve aussi bon dans tous les domaines, qui a un avantage, c'est sur la photo, il est légèrement meilleur parce que OnePlus, ils ont un tout petit désavantage sur la photo. Mais franchement, si vous n'êtes pas un grand fan de photos, si c'est pour faire des photos comme ça, toujours des photos de famille, etc. Franchement, ça vous posera aucun problème.
Donc, super.
Moi, recommandation, passez chez OnePlus. De toute façon, je vais vous dire un truc. En ce moment, les marques Android avec Huawei et les difficultés qu'on connaît malheureusement, que je peux pas recommander, même si les téléphones sont excellents, je peux pas recommander d'acheter un Huawei sans Google. Il y a Samsung qui est un peu la valeur sûre. Xiaomi qu'on trouve aussi, mais pareil, dans les hauts de gamme, ils pêchent un peu sur la photo. Voilà, en haut de gamme en ce moment, pour moi, ce serait OnePlus. Il y a Google, mais qui est beaucoup.
Après, il y a Samsung aussi.
Ouais, non, je disais Samsung qui est la valeur sûre. Ouais, voilà, Samsung, c'est la valeur sûre. Mais si vous êtes content avec OnePlus, franchement,
moi je suis très content avec mon.
Écoutez, je vois pas de raison.
Quasiment.
En plus, vous allez devoir, si vous passez sur iOS, faut tout transférer. Enfin, je vois pas trop l'intérêt. Sincèrement, je vois pas l'intérêt. Okay.
Et puis c'est cool, OnePlus. Je trouve que ça. Enfin,
moi j'adore cette marque. Je suis un grand fan.
On se débarque des autres.
J'ai découvert ça un peu par hasard.
Ah oui, c'est une super marque qui a un modèle assez particulier. Au début, ils sont développés comme ça avec des systèmes sur invitation. Donc, ils ont réussi à créer une sorte de communauté. Et les téléphones sont excellents.
Voilà, Jean-Pierre.
Très bien. Ben merci.
Bah, écoutez, merci Jean-Pierre.
Achetez votre téléphone. Dites-nous ce que vous en pensez.
Alors,
vous nous rappelez.
Jean-Pierre, faites-moi plaisir. L'achetez pas tout de suite. Attendez la toute fin de l'été. Je sais pas si vous êtes encore en vacances, mais en tout cas, attendez d'être définitivement rentré. S'il y a quelques dernières journées de la fin du mois d'août à la plage, mettez le vieux téléphone quand même sur la plage.
Oui.
Merci Jean-Pierre. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et évidemment, vous avez une question Vie Numérique, tout comme Jean-Pierre a posé à Raphaël Grabli, profitez-en. Le 3216, le standard RMC, l'appli RMC Direct Studio, vous nous laissez votre numéro de téléphone. N'hésitez pas. Allez, on retrouve maintenant le tuto de Raph.
RMC, ceci est notre structure, une sorte de programme de chargement.
Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique?
Le tuto de Raph.
Et oui, Raphaël, ton tuto de cette semaine, et tu nous invites à surfer écolo. Qu'est-ce qui t'arrive?
Oui, écoute, on a pas mal parlé d'écologie et de numérique ces derniers temps, notamment au début de l'été, il y avait eu l'histoire de pendant les municipales avec les élus écolos justement qui a parlé de la 5G, de la consommation énergétique de la 5G. Il y a eu aussi un rapport du Conseil national du numérique qui a remis au gouvernement 50 propositions pour diminuer l'empreinte écolo du numérique. Alors ça, c'est très bien, mais ça change pas grand-chose à court terme.
Il y avait d'ailleurs une mesure qui a fait grincer des dents beaucoup de gens, arrêter l'internet illimité.
C'est ça, interdire les abonnements, ou en tout cas pas interdire, c'était plus encadrer les abonnements fixes, on parle du fixe, illimité, c'est-à-dire que chez soi, on a une enveloppe sur sa fibre de 200, 300, 500 gigas.
Bon, ce qui était un peu stupide à mon avis.
Oui, mais ça a rapidement été, ça a été même...
L'ARCEP a dit non.
Même le vice-président du Conseil national du numérique a dit que c'était une idée idiote. fait. Donc bon, a priori, bon, voilà.
On n'est pas les seuls à penser ça.
Voilà, a priori, d'accord. on le verra pas arriver. Mais il y a quand même des choses qu'on peut faire de façon très simple pour limiter son impact. Et franchement, sans avoir vraiment, on va dire, à bouleverser ses usages. Déjà, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui consomme de l'énergie, ce qui consomme de l'électricité. Et ben, c'est les serveurs, hein. Les serveurs qui stockent nos données à distance, celles qu'on met dans le cloud. Alors c'est évidemment nos photos de vacances, mais tout simplement aussi nos mails. En fait, nos mails, c'est du cloud, hein, ils sont stockés sur des serveurs et on peut agir. Par exemple, un exemple très simple, un mail tout seul avec du texte, si je t'envoie François, coucou, comment ça va, ça pèsera rien. Et si je mets 15 000 destinataires, ça changera pas grand chose. Par contre, dès qu'on ajoute un document PDF, une photo, quelque chose, voire une vidéo, alors à ce moment-là, si je mets plusieurs destinataires, il faut comprendre que ça va être dupliqué. Toutes les photos, toutes les vidéos vont être dupliquées.
Et réenvoyées à chacun.
C'est exponentiel. Donc simplement, le fait de limiter le nombre de destinataires quand on envoie des mails avec des fichiers volumineux, ça change considérablement les choses.
Et on
ne
se rend pas compte, parce que c'est vrai, on reçoit des vidéos rigolotes, des trucs, des présentations parfois un peu amusantes. On forward ça à tout notre carnet d'adresses. Bah, il faut peut-être réfléchir, quoi. C'est pas
exactement
très écolo.
Et je pense notamment dans le milieu professionnel, je vois souvent quand même passer des mails avec des signatures où on a des photos en HD, en signature, des choses comme ça. Voilà. Est-ce que c'est vraiment utile? C'est pas évident. Alors, un autre réflexe très simple, on peut supprimer tout simplement ces vieux mails, hein, parce que ces vieux mails, ils sont stockés sur des serveurs. Donc, ils occupent de l'espace sur des serveurs. Donc, c'est des serveurs qui doivent bien être alimentés en énergie. Donc,
à la limite, vaut mieux les stocker sur son PC.
Exactement. Si on peut les stocker sur son PC, ça occupe de l'espace, mais ça change pas grand-chose. Des comportements très simples en streaming, par exemple, n'hésitez pas à télécharger les contenus d'une saison. Si vous voulez la regarder, parce que si vous regardez un épisode en plusieurs fois sur Netflix, par exemple, ou une autre plateforme, à chaque fois que vous allez le remettre là où vous en étiez, il va retélécharger tout l'épisode. Si vous le téléchargez une fois, au moins c'est réglé, vous savez ce que vous avez téléchargé, et vous gagnerez, enfin vous économiserez, entre guillemets, des flux qui sont envoyés, qui consomment aussi d'énergie.
C'est pratique, on pourra le revoir même quand on n'a pas de réseau.
Et en plus, on peut le revoir quand on n'a pas de réseau. Alors, il y a un autre élément aussi important, c'est évidemment sur l'achat de ces appareils électroniques. Alors, si vous le pouvez, parce que c'est aussi une affaire de prix, évidemment, autant privilégier les marques de smartphones qui assurent le plus de mises à jour logicielles et en fait qui entretiennent leur mobile assez longtemps, c'est-à-dire qu'ils vont mettre à jour leur téléphone sur une longue durée. Et d'ailleurs, c'est assez marrant, justement, ça me fait penser à ce qu'on se disait avec Jean-Pierre, puisque c'est les trois marques dont on a parlé qui sont les meilleures, en tout cas les deux marques dont on a parlé qui sont les meilleures, c'est-à-dire Apple, qui fait des mises à jour pendant quasiment 6 ans, parce que iOS 14 est incompatible, je crois, avec l'iPhone 6S, donc 5 ans au moins, mais je me demande même si c'est pas 6 ans.
Oui, si on prend soin de son téléphone chez Apple, en fait, on peut le garder de nombreuses années.
Oui, alors Apple, c'est le meilleur dans le domaine, c'est eux qui font le plus de mises à jour, mais il y a aussi des bons élèves, et notamment OnePlus, qui fait des mises à jour assez rapidement, parce que justement, comme son interface est très simple, qui sont une petite équipe aussi, ils envoient les mises à jour assez rapidement. Et évidemment, il y a Google aussi d'ailleurs, c'est la troisième marque qu'on citait, puisque comme c'est Google qui est derrière Android, et ben sur leur propre gamme de téléphone, ils peuvent être très réactifs et proposer des mises à jour sur le long terme. Donc la mise à jour, c'est très important, et notamment pourquoi ? Parce qu'il y a aussi un bon réflexe qui est d'acheter tout simplement un smartphone reconditionné, d'occasion ou reconditionné, c'est-à-dire remis à neuf. Sauf que ces smartphones reconditionnés, par définition, c'est des smartphones qui ont 2-3 ans. Donc si on achète un smartphone reconditionné qui a 3 ans et qu'on arrive à la fin de la mise à jour, alors on aura des mises à jour de sécurité. Mais c'est dommage, c'est-à-dire qu'on va acheter un téléphone qui va devenir presque obsolète d'un point de vue logiciel.
C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, certaines applis qu'on a l'habitude d'utiliser ne marcheront plus.
Exactement. Donc c'est pour ça que quand on achète un smartphone reconditionné, il faut faire très attention à prendre un smartphone qui va être encore mis à jour au moins 2 ans. C'est très important. Et c'est pour ça d'ailleurs que parfois je vois passer des pubs pour des téléphones qui sont quasiment plus mis à jour, qui sont reconditionnés. Je pense qu'il vaut mieux dans ce cas-là les recycler et passer voilà.
C'est après l'avantage de ces téléphones, c'est que évidemment ils sont très peu chers, donc
ils
ça
sont très
permet
peu chers
malgré tout à certaines personnes qui n'ont pas énormément
oui,
de moyens.
C'est pour ça alors
voilà d'avoir un téléphone correct.
C'est pour ça que les conseils que je donne, c'est vraiment si on le peut dans la mesure du possible, parce que je sais qu'un téléphone c'est aussi une affaire de prix et qu'on n'a pas forcément les moyens de s'acheter ces marques, puisque les trois marques OnePlus, Apple et Google sont des marques qui font des produits assez chers, même si Apple et Google maintenant font aussi des produits à 300-400 euros avec l'iPhone SE ou avec le Pixel 4a qui est l'entrée de gamme de chez Google.
L'iPhone SE c'est plus 500 que 400
500 euros, oui, 480, oui c'est vrai, mais c'est des téléphones voilà qu'on va pouvoir garder. Donc faire attention simplement à la marque et vérifier que ce soit une marque qui fasse des mises à jour.
Raphaël, dans un instant, Marc Simoncini sera avec nous dans ce studio Et en ce 22 août, on va vous présenter, Marc Simoncini nous présentera son dernier bébé. C'est un vélo, mais un vélo hyper connecté. Il dit lui-même que c'est un peu l'iPhone du vélo. Il va nous expliquer pourquoi c'est un vélo électrique, bien sûr. A tout de suite donc sur RMC. On revient juste après la météo avec notre invité exceptionnel, Marc Simoncini dans Vie Numérique. A tout de suite.
RMC jusqu'à 10h.
Votre vie numérique.
RMC 9h-10h.
Votre vie numérique.
François Sorel.
Raphaël Grabli.
Encore une fois, merci d'avoir choisi RMC, merci d'être là. Et en ce 22 août, après, vous le savez, le jardin, après la maison, après la forme, la santé, il est toujours avec moi et il est avec moi jusqu'à 10h, c'est Raphaël Grabli. Raphaël, notre invité vient d'arriver en studio, on est très heureux de recevoir aujourd'hui un entrepreneur qui a toujours des choses à nous raconter et surtout qui va nous présenter là peut-être le vélo qui va être la bonne surprise de cette rentrée.
Oui, Marc Simoncini, qu'on est ravis d'accueillir en studio, alors qui est une figure du web français depuis maintenant quelques années. Alors je rappelle, vous avez fondé...
Bonjour Marc.
Bonjour, merci d'être là. Bonjour.
Vous avez fondé e-France, qui était l'un des premiers sites d'hébergement en France à la fin des années 90. Vous avez créé Mythique, en 2001. Mythique, c'est autre chose. Et là, vous vous lancez dans une nouvelle aventure qui est Angel Bike. Alors, l'idée, c'est un vélo électrique made in France et intelligent. Alors, ma première question, c'est quand on est un acteur comme ça, historique du web, du numérique, pourquoi est-ce qu'on veut faire un vélo ?
En fait, on n'a pas voulu faire un vélo. On est parti d'une envie d'avoir un projet pour améliorer la qualité de vie. Et on s'est dit, comment on peut améliorer le monde dans lequel on vit ? Et puis, il se trouve qu'on vit en ville. Et qu'on s'est dit, bah, il y a un endroit qui est vraiment pénible à vivre, c'est la ville. Et pourquoi la ville est pénible à vivre? Parce qu'il y a des bouchons, parce qu'il y a du bruit, parce qu'il y a de la circulation. Et nous, on pense que c'est plus vivable. Et donc, on s'est dit, le problème auquel on va s'attaquer, ça va être d'améliorer la qualité de vie, la circulation dans le centre-ville et la pollution. Et donc, on s'est dit, pour ça, il faut éliminer les voitures thermiques particulières des centres-villes, demander à ce qu'il y ait des pistes cyclables, proposer une alternative à la voiture, un vélo électrique, ça aurait pu être une trottinette ou des patins à roulettes, un objet de circulation qui remplace efficacement la voiture. On a regardé les trajets qui étaient effectués dans les centres-villes, on a regardé tous les moyens de parcourir ces trajets, et le meilleur moyen pour parcourir les trajets moyens en centre-ville de 5 km et de les faire très vite, c'est le vélo. Pourquoi le vélo électrique ? C'est que si vous le faites à vélo, quand il fait chaud, vous arrivez, vous êtes en nage, donc vos bureaux, c'est la galère, il faut prendre une douche, donc le vélo électrique, c'est aussi un moyen de faire moins d'efforts, d'aller plus vite et que ce soit plus agréable. Donc on s'est dit, le meilleur moyen pour virer la bagnole des villes, c'est le vélo électrique. Et c'est le pari qu'on a pris il y a 3 ans. On a mis 3 ans à développer du logiciel et le vélo, parce qu'il y a beaucoup de logiciels dans
oui,
le vélo.
Alors c'est pour ça que vous êtes notre invité dans Vie Numérique, parce qu'au-delà du vélo électrique, c'est un vélo avec énormément de tech dedans, on va en parler.
C'est une tablette, c'est une sorte de tablette avec un vélo.
En fait, c'est un iPhone avec des roues.
C'est ça.
parce qu'un vélo électrique, c'est une batterie, un moteur et un biclou. Nous, on a le biclou, on a toujours le même biclou. On a fait un vélo, il y a 2 roues, des pédales. Par contre, on a mis un cockpit, le guidon, dans lequel là, il y a un smartphone qui est intégré dans le vélo, qui est connecté à votre smartphone, évidemment. Et donc, c'est en ça qu'on a inventé le premier smart bike. Alors, il y a des gens qui disent qu'ils font des smart bikes parce que pour déverrouiller le vélo, on tape le code sur l'iPhone. C'est pas ça qu'on fait, nous. Nous, il y a toute l'intelligence dans le vélo. Je vous donne un exemple. On en parlera après de ce qu'il sait faire, mais vous écoutez sur Spotify, YouTube, quand vous allez chez vous 3 fois par semaine. Un jour, vous prenez votre vélo, et puis il voit, qu'il calcule que vous êtes en train d'entrer chez vous, parce qu'il sait où vous êtes, il sait où vous allez, et puis il vous propose tout de suite de jouer YouTube, parce qu'il a compris que vous aimez bien mettre YouTube quand il fait beau. Deuxième exemple, les vélos sont souvent fabriqués électriques avec des logiciels qui existent sur étagère. Donc vous allez chez Bosch, chez Bafang, chez les fournisseurs de moteurs, ils vous fournissent le contrôleur, le moteur et le logiciel. Bon, tout le monde pédale pareil dans ces logiciels. Nous, on s'est dit, tout le monde pédale pas pareil. En l'occurrence, moi, je fais beaucoup de vélo. Si vous mettez le même vélo que Madame Michu, c'est-à-dire que dès qu'il y a une pente, le vélo se met à faire comme ça, alors que moi, la pente, je la fais sans moteur, c'est compliqué pour moi. Donc, on a développé notre propre contrôleur, notre propre logiciel d'assistance, et ça permet de faire quoi ? Ça permet, par exemple, quand vous démarrez dans une côte comme ça, il y a un gyroscope dans le vélo qui sait calculer qu'on est dans une pente. Et au premier tour de pédale, il va vous donner du jus de dingue.
Parce qu'il sait que ça va monter.
Parce qu'il sait que ça monte.
Il analyse la situation avant qu'on monte sur le vélo.
Et ensuite, le vélo, c'est pas parce que vous êtes dans une pente que vous avez besoin d'électricité. Si quand moi je suis dans l'exemple, c'est sortir d'un parking souterrain. Vous attaquez tout de suite la rampe qui est comme ça. Moi, je m'amuse à faire la rampe sans moteur. J'adore pousser sur les pédales et donc il sait que c'est moi. quand j'ai monté 10 fois ma rampe en poussant, il ne me donnera pas d'électricité. Par contre, Madame Michu, qui elle ne veut pas faire de sport, il va s'adapter. Donc après 100 km, l'intelligence artificielle qu'il y a dans la batterie calcule votre mode de pédalage nominal et va adapter l'assistance électrique qu'il va proposer en fonction de qui vous êtes.
Mais c'est une première mondiale, ça, ou pas?
C'est une première mondiale. Aujourd'hui, vous prenez
un vélo
tous
avec
les
de l'intelligence artificielle qui va savoir.
Qui va apprendre à nous connaître.
Voilà.
Franchement, avant de faire Angel, on a regardé tout ce qui se fait dans le monde. On est partout, en Israël, aux États-Unis, en Japon. On a regardé tout ce qui se fait. On a fait mieux que tout ce qu'on a trouvé.
C'est les
premières au monde.
En vélo électrique, c'est comparable à ce qu'on a déjà. Par exemple, si on enlève la partie intelligence artificielle.
Pour la batterie, vous dites.
Oui, pour la batterie ou même voilà, le vélo en lui-même.
Le mécanisme
en lui-même.
Ah, le mécanisme.
Par rapport à des concurrents, alors on a des concurrents haut de gamme, style Vanmoof. Il y a déjà des acteurs sur ce marché.
Oui, sauf que c'est des cadres qui font entre 18 et 26 kilos. Nous, le Note, pourquoi il est révolutionnaire? Il est en aluminium aéronautique, il est collé, et à la sortie hors batterie, le vélo est à 12 kilos, moteur inclus. C'est-à-dire, pourquoi 12 kilos? C'est pas parce qu'on avait envie de faire un vélo léger. Nous, notre vélo, il faut que ce soit le plus sûr et le moins facile à voler. Un vélo, quand il fait 12 kilos, vous savez pourquoi il n'est pas facile à voler? Parce que vous le montez chez vous. Vous avez la batterie d'une main, elle fait 2 kilos. Le vélo en face, il fait 12. Et vous le montez chez vous, parce que souvent, le local poubelle ou le local vélo, pardon, il est plein. Et vous le mettez chez vous. Et c'est une manière de ne pas vous faire voler.
C'est un pack d'eau et demi, quoi.
Ouais, ça se monte. Moi, je le monte sur 3-4 étages.
Disons que le grand problème du vélo, et ça, quand on en parle autour de nous, notamment à Paris, le vrai problème du vélo, c'est le vol. Investir, d'ailleurs.
Le vol et vandalisme.
On n'a pas parlé du prix. Est-ce que vous pouvez rappeler le prix du.
2690 ou 74 euros par mois.
Vous faites un système de location.
Sur 36 mois, 74 euros. C'est le prix du Pass Navigo.
D'accord, comme les voitures. Oui, mais c'est vrai que le gros problème, c'est le vol.
C'est pour ça qu'il est involable.
Pour vous, il est involable.
Vous ne pouvez pas le voler, puisque si vous n'avez pas l'iPhone, le code de l'iPhone, et que vous êtes à côté du vélo, le vélo ne démarrera jamais. Donc, il ne sert à rien de se voler un vélo qui ne démarre pas. Un vélo électrique qui ne s'allume même pas. Si quelqu'un le touche pendant que vous êtes en réunion, il sonne, il y a une alarme de dingue qui fait sonner le vélo dans la rue, elle dure 3 ou 4 minutes, alors c'est vous qui dites combien de temps elle dure. Vous recevez une alarme sur votre téléphone et vous dites, à partir du moment où il y a un mec qui est en train de toucher mon vélo, je le traque. Et le vélo, pendant 3 semaines, il est traqué sur une trace, vous savez, à 10 mètres près où il est. Il faut vraiment avoir envie de le voler, quoi. Vous partez avec un vélo qui sonne sur le dos, qui marche pas, que vous ne pourrez jamais allumer. Donc à part si vous voulez revendre les tubes d'aluminium à la décharge, je vois pas pourquoi vous le voulez.
Il n'y a pas grand chose à en tirer.
Bah, rien. Et
donc ça veut dire qu'il a une puce, téléphonique à l'intérieur, donc une puce.
Voilà. Il est connecté en 2G, il est connecté en Bluetooth, il est connecté en GPS.
D'accord.
Et il a une batterie secrète qui fait que même quand vous enlevez la batterie, parce que le voleur, lui, il se dit, tiens, quand je vais enlever la batterie, tout va s'éteindre. Ah non.
Il y a une petite batterie de secours.
Il y a une batterie de secours quelque part qui fait que pendant 3 semaines...
Donc il continue de sonner, il continue de traquer,
il continue de vous emmerder à sonner toutes les minutes.
Et alors, à part... Donc, vous nous expliquez, il apprend un peu à nous connaître sur les 100 premiers
kilomètres. Ça, c'est sur la partie assistance.
Sur la partie assistance. Maintenant, sur la partie service, on a un écran. Ouais. Qu'est-ce qu'on a dessus? On a de la navigation, je suppose. Ouais. Qu'est-ce qu'on a comme service?
Alors, on a d'abord le mode de pilotage que vous souhaitez. Il y a 4 modes. Le mode qui vous permet de faire du sport. C'est-à-dire que là, le moteur, il vous donne quasiment rien. Le mode qui vous permet d'aller très vite. Donc, c'est le mode fast. Là, je veux bombarder. Le mode cool, éco. Je veux que ma batterie dure le plus longtemps possible. Et le mode sportif, où là, je veux faire du sport, et ce que je compte, c'est le nombre de calories que je brûle. Je prends un exemple. Pourquoi on a fait ce vélo comme ça? Moi, je suis sportif. Fait chier de faire du vélo électrique. Mais le matin, j'ai une réunion, faut pas que je transpire. Je prends un Angel et je pars le matin. Là, je mets le mode, si je suis à la bourre, le mode fast. Mode éco, je le mets pas parce que je sais que le retour, je n'utiliserai pas la batterie. Donc, je mets le mode fast pour aller vite à mon rendez-vous. Donc là, le vélo me donne plein d'énergie, je donne pas beaucoup de coups de pédale et je vais.
Donc, vous transpirez pas. Ah bah vous arrivez nickel.
Là, j'arrive nickel, très vite à mon bureau. Ce qui m'apporte, c'est quelle vitesse j'ai roulé, la moyenne que j'ai faite. Le soir, je suis au bureau, je rentre chez moi. On fout d'arriver sec. Là, je me dis, tiens, comme j'ai une heure à tuer, je vais demander à Angel de m'amener chez moi, mais je veux dépenser 700 calories. Donc, je dis 700 calories. Et Angel, il me fait un parcours avec ce qu'il faut comme piste cyclable. Il évite les zones où il y a la pollution, parce qu'on est relié avec l'application à toutes les cartographies de pollution. Et il va me donner l'assistance électrique qu'il va falloir pour qu'une fois que je serai chez moi, j'ai brûlé 700 calories. Donc à l'aller, j'ai une voiture pour me déplacer, c'est l'équivalent. Au retour, je fais mon sport. Tout ça, c'est l'intelligence qu'il y a dans le
coup. Et le vélo ne se recharge pas, en revanche, quand je ne mets pas en route l'assistance électrique.
Non, ça, il y a très peu de modèles où vous pouvez récupérer le frein.
Alors, il y a une start-up à Montpellier, je crois, qui fait un vélo qui se recharge comme ça.
Ouais, mais ce n'est pas des moteurs électriques. Il y a des gens qui font des gyros, machin. Bon, il y a plein de technologies, mais c'est pas du tout compliqué.
D'ailleurs, l'autonomie, c'est combien de kilomètres?
Alors, c'est à la batterie qu'on a choisie pour qu'elle fasse 2 kilos. nous, on a 70 km d'autonomie.
D'accord.
Mais pas en mode fast. Pas en mode.
Non, en mode fast, on va être plutôt à 50. Mais d'accord. Franchement, oui, mais le trajet moyen, c'est 6 km.
À vélo, oui, à vélo, on a de la marge quand même, 50 km pour les faire. Si on le monte chez soi.
Ça fait beaucoup.
Pour les faire tous les jours, on a de la marge.
Je veux dire, vous parlez des concurrents tout à l'heure, vous avez des batteries qui font 70 km. La batterie, elle n'est pas amovible. Donc dès que votre vélo est vide, vous le montez, vous l'amenez au bureau pour le recharger. Mais nous, c'est pas très grave. Vous arrivez au bureau, mettons que votre batterie, vous ayez été en mode fast tout le temps, vous la débranchez, vous la mettez sur son socle de rechargement. Deux heures après, elle est pleine. Vous la reprenez, vous la remettez, vous refaites 70 km. Donc, avoir l'opportunité de rouler 70 km dans une ville sans jamais avoir eu accès à un chargeur avec une prise, ça n'existe pas.
Et d'ailleurs, on parle de vélo, vous parliez un peu d'autres moyens de transport. C'est vrai que la grande mode, même si je ne suis pas forcément un grand fan, la grande mode depuis quelques mois, c'est les trottinettes.
Ouais.
Vous n'avez pas l'air emballé, vous. Est-ce que Angel, demain, alors je rappelle le nom Angel d'ailleurs, parce que ça s'écrit A-N-G-E-2-L.
Angel
donc
Bike.
Angel Bike. Est-ce que vous, la trottinette, c'est quelque chose qui vous intéresserait ?
On s'est posé la question de se dire on a réglé le problème des 4 km, on va régler le problème du kilomètre. Mais quand on fait une trottinette, on arrive dans des objets qui doivent coûter 200 balles, 300 balles. Mais il n'y a pas vraiment beaucoup d'intelligence à mettre dans une trottinette. Donc, c'est les Chinois qui font les trottinettes.
Oui, c'est les produits qui ont le meilleur rapport qualité-prix.
Vous pouvez pas faire un vélo en Europe si vous mettez pas beaucoup d'intelligence. Pourquoi on a signé avec Seb? Seb, ils font en France tous les trucs dans lesquels il y a beaucoup d'intelligence. Si vous voulez battre sur le prix, vous n'avez aucune chance.
Alors, vous vous dites, pourquoi Marc Simoncini, qui parle de vélo, parle de Seb? Eh bien, vous savez quoi? On va tout vous dire juste après cette petite pause, parce qu'il y a un rapport. Eh oui, évidemment. Merci d'être avec nous. C'est votre vie numérique sur RMC avec Raphaël et Marc Simoncini, notre invité. Ce matin, on découvre le vélo Angel. On revient juste après ceci. À tout de suite.
RMC jusqu'à 10h.
Votre vie numérique.
RMC jusqu'à 10h.
Votre vie numérique.
François Sorel.
Raphaël Grabli.
Le retour de votre vie numérique sur RMC. Merci d'être là. Jusqu'à 10h, c'est le week-end des experts. Raphaël Grabli et Marc Simoncini qui est notre invité. On découvre avec lui sans doute le vélo le plus high-tech au monde. Et ce vélo est français, Raphaël. Et non seulement il est français, mais en plus il est fabriqué en France, Marc, puisque vous avez passé un accord avec l'usine Seb.
Le groupe Seb.
Le groupe Seb pour fabriquer ce vélo. Raphaël, on rappelle quand même que Seb, c'est, au départ, c'est du ménager, des articles ménagers, quoi.
Et là, ils vont faire un vélo. Je rappelle le nom du vélo, hein, ouais. Angel Bike. Comment vous êtes venu à conclure un accord avec eux?
Alors, c'est une histoire étonnante parce que quand on fait un vélo qui s'appelle Angel, il y a un moment donné, il faut s'attendre à croiser les dieux. Il se trouve que j'avais rendez-vous avec le PDG du groupe Seb pour un sujet qui n'avait rien à voir avec Angel. Et au dessert, après avoir fait un déjeuner fort sympathique, on a parlé de nos vies, il me dit tu fais quoi en ce moment? Et je lui dis je lance un vélo électrique. Ah, mais c'est génial ça. Je lui dis ouais. Il me dit non, mais alors il faut que je te dise, parce que moi chez Seb, il y a 20 ans, quand j'en allais en Chine, il y avait des vélos. Il y a 10 ans, ils ont beaucoup d'usines en Chine, il va tout le temps. 10 ans, quand j'étais en Chine, il n'y avait plus de vélos avec des bagnoles. Et maintenant, quand je vais en Chine, ils sont tous en vélo électrique. Donc un jour, je suis rentré chez Seb et j'ai dit les gars, il faut faire des vélos électriques. Et donc je lui raconte Angel et il me dit mais comment ça décolle? Je dis écoute, on a un problème, c'est que je pensais en faire 1500, et à l'époque où on discutait, on était sur un train où on en avait quasiment prévendu 10 000.
Ça, c'était avant le Covid?
C'était juste avant, c'était au mois de février.
Parce que le vélo, il a été présenté en début.
En novembre.
En novembre.
Il a été en précommande.
Et puis ça.
Moi, j'ai rencontré Seb en février, déjà, on a eu les grèves. Donc pendant les grèves, les commandes ont explosé, les gilets jaunes, ça a explosé. Donc je dis au groupe Seb, je dis écoute, moi, j'avais prévu de faire un atelier pour faire 1500 vélos dans l'année.
C'est-à-dire que vous comptiez au départ créer un atelier et fabriquer des vélos avec des. Voilà, oui, vous-même.
Une équipe, une usine, enfin des.
Et vous avez eu 10 fois plus de commandes.
Et on a eu 10 fois plus de commandes. Donc j'ai dit, écoute, moi c'est comme Tesla. Tesla, il a toujours dit, ce qui n'est pas dur, c'est de faire la Tesla. Ce qui est dur, c'est d'en fabriquer 30 000 par semaine. Il me dit, écoute, si tu veux, je te fabrique tes vélos. Je dis, comment ça? Il me dit, oui, mais j'ai une usine qu'on va faire réhabiliter. On a le lieu d'un truc et moi j'adore ça. Donc on a négocié un contrat et on a lancé la fabrication. Mais heureusement, parce que si moi j'avais dû arriver aux capacités de production qu'on a aujourd'hui pour produire ce qu'on vend, je crois que j'y serais pas arrivé, quoi.
Et on parle de la production, mais en comparant avec Tesla et par rapport aux Américains, où Tesla a les meilleurs ingénieurs du monde, est-ce qu'aujourd'hui, vu que vous êtes aussi une boîte quelque part d'intelligence artificielle, est-ce qu'en France, vous trouvez des super spécialistes de l'intelligence artificielle?
Alors, en vérité, Tesla, ils ont besoin d'ingénieurs extraordinaires parce qu'ils font un truc.
La conduite
autonome. C'est qu'ils pensent que la voiture va conduire automatiquement.
Ouais.
Parce que si c'est pour faire une voiture électrique, qui est quand même un iPad, quatre moteurs, quatre roues et des batteries. Vous avez des ingénieurs partout, hein. D'ailleurs, les Français font des voitures électriques formidables.
Oui, mais ce que vous faites,
ouais, enfin, alors... sauf que Elon Musk le fait depuis 10 ans.
C'est oui, ça, mais c'est ça, lui, là où il a besoin de beaucoup d'intelligence, c'est que sa vision, elle va au-delà de la voiture, elle va dans la voiture autonome.
Enfin, ce que vous faites quelque part, c'est aussi de l'aide à la conduite.
Oui, mais moi, je ne vois pas que le vélo va conduire pendant que vous faites les ongles des pieds, quoi.
Évidemment, évidemment, mais enfin, quand même, il y a quand même de la R&D.
Ouais, mais c'est franchement, c'est accessible.
Ouais.
On a des ingénieurs ultra pointus, mais pas au niveau de ce qu'on devrait avoir si on avait le rêve que le vélo roule tout seul. Alors là, rentrer dans un univers qui est une échelle bien supérieure. Donc, une Tesla, c'est pas compliqué à faire. Des gens qui fabriquent des bagnoles électriques, il y en a partout. Il y en a même en France. Bah, par contre, les faire autonomes, là, ça nécessite d'énormes moyens.
Non, parce qu'on dit souvent que les meilleurs ingénieurs en France, on sait les produire, mais malheureusement, on ne sait pas les garder.
Moi, j'en rencontre des bons ingénieurs en école. D'ailleurs, je suis actionnaire d'une boîte qui a été montée par des cadors de l'intelligence artificielle qui sont partis travailler chez Facebook, qui ont vendu leur start-up à Facebook. Vous savez ce qu'ils ont fait après? Ils sont revenus dans le plus beau pays du monde, qui est la France, et leur deuxième start-up, ils l'ont monté chez nous.
Après, on a des pépites aussi que vous soutenez, comme De Vialet, par exemple, où là, il y a beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de logiciels, etc.
On a une boîte qui s'appelle Wondercraft qui fait des squelettes, des exosquelettes pour aider les gens à remarcher, les gens qui ne marchent plus. C'est des équipes de tech, mais c'est extraordinaire.
Et, d'ailleurs, vous avez un parcours assez intéressant parce que c'est vrai qu'à l'école, d'après ce que j'ai compris, vous n'étiez pas forcément le premier. Par contre, après, vous êtes parti vers une formation en informatique et vous avez fait finalement ce qu'on recommande maintenant. On a l'impression que tout le monde doit faire du développement de l'informatique.
Ouais.
Est-ce que c'est quelque chose que vous recommanderiez aujourd'hui en 2020 pour ceux qui nous écoutent ou leurs enfants peut-être?
Moi, je dis que un gamin qui sort du bac et qui ne sait pas quoi faire à 18 ans, il y a ceux qui savent. Mais les gamins qui doivent faire du Parcoursup un an avant sortie du bac, ils ont ces 17 ans, on leur demande quelle filière ils vont devoir prendre. Pauvres gamins, mais ils sont complètement perdus, quoi. Donc plutôt que de choisir du droit, de la sociologie, il en faut, hein. Enfin bon, il y a des sociologues, il n'y a pas des masses, quoi. Ben faites du codage. C'est comme des maths, en plus sympa, ça vous fait créer des produits qui existent, alors que les maths...
On aura de plus en plus besoin de ce type de métier.
Ben, c'est pour ça qu'on a créé une école avec Xavier Jacques-Antoine, où on prend les gamins en sortie de bac et on les forme au web pendant 5 ans. Après, le gamin, le web, il a horreur de coder parce que ça l'emmerde, mais du coup, peut-être qu'il dessine super bien, il va devenir graphiste, peut-être qu'il écrit bien, il va devenir rédacteur. Il y a des dizaines de métiers dans le digital où n'importe quel petit talent suffit à créer un job dans le digital. Il y a une demande extraordinaire d'emploi dans le digital. Donc, quitte à faire quelque chose, plutôt que de faire du droit à Assas ou la socio à Jussieu, faites du web, faites du digital, amènera n'importe où.
Mais quand on est à Paris pour apprendre à coder, ça va, c'est jouable. Enfin, il y a l'école 42, il y a d'autres écoles, etc., qui font ça. Mais quand on est, par exemple, dans le sud-ouest, ou à Marseille, ou à Nice, il y a des écoles partout en France.
Et puis maintenant, vous suivez les cours en ligne. C'est fini, ça.
Oui, on peut apprendre à coder en ligne, déjà gratuitement.
Non, mais en fait, c'est un truc, ça fait peur, parce que c'est des geeks, ils sont intelligents, ils ont des grosses lunettes, ils boivent du coca, il y a que des mecs.
C'est fini, ça.
Et c'est fini. Ouais. Aujourd'hui, dans l'école qu'on a faite, il y a à peu près la moitié de filles, quoi. Et coder, c'est sympa. Vous avez un ordinateur et vous lui dites, tiens, quand je vais cliquer ici, tu vas ouvrir la fenêtre. quand on clique, ça ouvre la fenêtre. C'est pas comme les maths, quoi. Quand les maths,
avant qu'on voit le résultat concret d'une équation, on a un peu de marge.
Ouais, c'est ça. Pour faire décoller une fusée.
C'est ça. Mais alors du coup, j'ai aussi une question, parce que vous êtes aussi business angel, donc c'est-à-dire que vous investissez dans des jeunes entreprises, donc vous en voyez passer.
Vous avez investi dans plusieurs centaines de startups tout au long de votre carrière.
Oui.
Et du coup, moi j'ai une question, c'est est-ce que quand même ces dernières années, il y a une techno qui vous titille un peu, vous dites là, j'ai l'impression qu'il va y avoir, que cette techno va vraiment changer quelque chose? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, etc. Mais c'est vrai que c'est un peu flou. Est-ce que aujourd'hui, en techno, il y a des technos vraiment que vous voyez passer, vous sentez monter, et dont on parle pas forcément assez à votre.
La techno ultime, il y en a deux. La première, c'est d'être capable de diffuser partout sur le globe de la vidéo haute définition en temps réel. Quand on aura des appareils qui nous permettront de faire ça partout où je sois sur Terre, et que celui qui est de l'autre côté reçoive ça, on sera au bout de ce qu'on peut transmettre.
Donc ça c'est quoi,
c'est la 5G, la 6G.
C'est quoi, c'est l'holographie, c'est quoi,
l'holographie c'est du relief, mais admettons, ce qui compte c'est d'avoir un truc qui nous permet d'envoyer des informations en temps réel sans latence,
un giga Instagram quoi.
Un giga Instagram et ça c'est fini.
Et puis avec un bon encodage aussi. On parlait de Molotov notamment que vous connaissez bien aussi, voilà, des boîtes comme ça qui savent faire de l'encodage vidéo.
Quand les devices seront capables de transmettre de la HD en temps réel sans latence, on sera au bout de la technologie des smartphones. Ils ne sauront rien faire de plus. Sauf, deuxième fonctionnalité, là où on n'est pas encore au bout, c'est l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, le jour où ça sera une vraie intelligence artificielle, on sera au bout de tout ce qu'on peut imaginer, puisque le smartphone deviendra aussi intelligent qu'un homme. On aura tout fait. Donc les deux...
Est-ce qu'aujourd'hui,
demandez les prospectives.
Ah oui, parce que là, on n'est pas...
Les chemins, c'est ça.
Parce que là, on n'est pas à un millième du pouce de l'intelligence artificielle. Quand on dit intelligence artificielle, c'est quelque chose qui peut penser comme un homme, ou comme une femme, évidemment. Mais
alors qu'on n'y est pas du tout.
On n'y est pas du tout, parce qu'aujourd'hui...
On est loin, on en est loin, mais on a déjà fait beaucoup.
Oui.
Qu'on le voit pas. Non, mais je vais répondre à votre question. Dans votre vie de tous les jours, à part Siri... vous voyez pas vraiment le impact de l'intelligence
artificielle. C'est ça, on en parle.
Dans votre vie de tous les jours. Mais quand vous achetez un colis sur Amazon et que vous voulez qu'il soit livré le lendemain matin et que avant même que vous ayez les billes dans le panier, l'intelligence artificielle d'Amazon, elle pense qu'elle vous allez l'acheter et elle l'a déjà mis dans le carton avant que vous l'ayez acheté.
Ça c'est flippant.
Vous le voyez pas.
Ouais, c'est vrai.
Parce que c'est pas votre vie, mais l'intelligence artificielle. Elle est déjà là.
Oui, mais après, elle me repropose aussi parfois des trucs que j'ai déjà achetés.
Oui, mais ça, c'est Criteo, c'est pas vraiment de l'intelligence artificielle.
Oui, non, mais parce que souvent, tu rachètes des trucs que tu as déjà achetés.
Et parfois, on rachète.
Non, mais c'est marrant que vous parliez de ça parce que j'allais parler un peu des investissements que vous avez faits et des boîtes comme Sensi qui vend des lunettes en ligne, comme PopChef qui fait de la livraison de repas, Ornicar, Made, où finalement, c'est des boîtes qui n'ont pas forcément une techno incroyable, mais qui changent un service qu'on connaissait déjà finalement. Ouais. Moi, c'est ça le but de la techno, c'est-à-dire pas être techno pour être techno, mais être là au bon moment.
Non, moi je suis pas un investisseur dans la deep tech. Je suis pas un investisseur dans des technos trop complexes parce que j'ai une règle, c'est que je n'investis que dans des dossiers ce que je comprends et que j'utilise. Donc je fais très peu de B2B. J'investis pas dans les logiciels de paye des entreprises parce que je suis pas une entreprise. Donc moi quand j'investis dans un produit, je me dis tiens, moi si ce truc existait, je l'achèterais. C'est ma règle. Donc, de fait, j'investis très peu dans la techno et beaucoup dans les nouveaux usages et les nouvelles idées qui font le bien.
Dernière question, je voulais vous en parler rapidement par rapport à votre expérience sur Mythique. Je ne vais pas vous parler de Mythique, mais parce que quand même, vous étiez pionnier des sites de rencontres.
Ah oui.
C'était en 2001,
Mythique. Mythique est devenu le géant qu'on connaît. Ouais. Est-ce que aujourd'hui, en 2020, où franchement, ça a complètement évolué, vous recommanderiez, je ne sais pas moi, à vos enfants, s'ils veulent rencontrer quelqu'un, d'aller sur un site de rencontre?
Alors, je vais vous dire, ils peuvent aller sur les sites qui doivent toujours exister, deux types mythiques, dont pour les résumer, vous remplissez plein de critères sur ce que vous êtes.
Jusqu'à Tinder, quoi.
Voilà, justement, vous allez voir où je veux en venir. Mythique, vous dites vraiment qui vous êtes, et vous dites vraiment qui vous cherchez. Et on essaye de vous la trouver, mythique. Tinder, vous mettez une photo, et vous dites où vous êtes. Et ça va vous trouver une fille qui a une photo et qui est à côté. Si franchement le dating aujourd'hui c'est de dire qui je peux rencontrer de plus près qui me plaît, peut-être à 10 mètres, sortez dans la rue. Ça marche aussi bien.
Dans la rue, les gens sont sur Tinder, on ne peut pas leur parler.
Non, mais dans la vraie rue, dans la vraie vie. Donc moi, à l'âge que j'avais, concevoir une rencontre amoureuse sur le fait que la fille est à 15 mètres, c'est pas ma vision des rencontres.
Mais est-ce que Mythique, le business model de Mythique, marcherait encore aujourd'hui, Marc Simoncini, quand Mythique, on voit qu'aujourd'hui, les gens se rencontrent sur Instagram, sur Facebook, qui s'apprêtent à...
Mais ça a toujours été le cas, ça.
Ouais. Il n'y avait pas Instagram et Facebook à l'époque.
Mais si, j'avais Facebook au début. On a eu Facebook et tout le monde nous a dit vous allez être mort. Mais sur Facebook, le problème, c'est que c'est votre vrai nom. Donc quand vous prenez un vrai râteau une vraie fille, c'est un vrai râteau.
Et puis c'est d'une vraie fille ou d'un vrai mec qui a des amis en commun souvent.
Voilà. C'est quand vous avez pris un râteau avec le réseau d'une fille, c'est quand même un multiple râteau.
Marc, merci d'avoir été avec nous. On rappelle qu'Angel, ce vélo hyper sophistiqué avec beaucoup de techno est disponible.
Il est disponible, y compris à la FNAC. Et vous pouvez aller l'acheter à la FNAC ou sur internet sur angel.by.
Je pensais à un truc. Est-ce que on peut bénéficier d'aide? Parce qu'il y a pas mal d'aide aussi sur l'achat d'un vélo. vélos.
Oui.
Ça, on peut avoir des ristournes.
Oui, alors le gouvernement a monté un grand plan vélo qui permet d'avoir des subventions.
Ça fait, pour
ça fait baisser le prix. C'est significatif, à presque 30% du prix du vélo. Hein. Vous pouvez, dans certaines villes, avoir jusqu'à 800 euros de subvention, plus votre employeur qui vous en donne 400. Ça vous fait un vélo qui ne coûte pas très cher. Mais vous savez, tout le monde a intérêt à faire ça, y compris ceux qui payent la subvention, l'État ou la boîte. Parce que moi, je connais personne qui va arriver au travail en vélo et qui est stressé.
Merci Marc.
Merci.
Marc Simoncini, donc. Et Raphaël, on se retrouve la semaine prochaine.
Et bien sûr, avec grand plaisir.
On sera là, la vie numérique, vous le savez, chaque samedi sur RMC, 9h-10h. Dans un instant, le sport. Portez-vous bien. Bonnes vacances à vous toutes et à vous tous. Terminez-les tranquillement. Et à très vite.
RMC jusqu'à 10h.
Votre vie numérique.